Charles Dickens, Barnabé Rudge. Traduction de M. Bonhomme. Chapitre 59. Il nous faut maintenant retourner à Hugues, que nous avons laissé dispersant les émeutiers de la Garenne, avec un mot d'ordre pour se trouver à un autre rendez-vous, et rentrant furtivement dans l'ombre dont il venait de sortir un moment pour ne plus reparaître de la nuit. Il s'arrêta dans le taillis, se dérobant à la vue de ses compagnons furieux, qui attendaient encore dans l'incertitude, ne sachant s'il devait lui obéir et se retirer, ou s'il ne ferait pas mieux de rester là quelque temps encore, dans l'espérance de revenir avec lui. Il en vit même quelques-uns qui n'étaient point du tout disposés à s'en retourner sans lui et qui se dirigeaient du côté où il se tenait caché pour aller à sa rencontre et le presser encore de leur tenir compagnie au retour. Mais ces traînards, s'entendant à leur tour pressés par leurs amis de partir et ne se sentant pas bien braves pour s'aventurer dans l'obscurité du bois où ils avaient peur d'une surprise et où ils pouvaient tomber entre les mains des voisins ou des serviteurs de la famille qui peut-être les épiaient derrière les arbres, renoncèrent bientôt à leur premier projet et, formant une petite troupe de ceux de leurs compagnons qu'ils trouvèrent disposés à se mettre en route à l'instant, ils décampèrent. Après s'être assurés que la grande majorité des perturbateurs avaient pris ce parti et que le jardin allait bientôt être évacué tout à fait, il plongea dans le plus épais du fourré, cassant les branches sur son passage et marchant tout droit vers une lumière lointaine qui lui servait à se guider, ainsi que les dernières et sombres lueurs de l'incendie par derrière. À mesure qu'il approchait du fanal vacillant vers lequel il dirigeait sa course, il commença à voir apparaître la flamme rougeâtre de quelques torches et à entendre des hommes dont la voix contenue rompait le silence de la nuit, troublée seulement à présent par quelques cris rares et lointains. Il finit par sortir du bois et, sautant un fossé, il se trouva dans un sentier obscur où un groupe de bandits d'assez mauvaise mine qu'il avait laissé là un quart d'heure auparavant attendait son retour avec impatience. Ils étaient réunis autour d'une vieille chaise de poste menée par l'un d'eux assis en postillon sur le porteur, les stores étaient baissés et les deux fenêtres gardées par M. Tappertit et Dennis. C'est le premier qui commandait la troupe et qui, en cette qualité, adressa la parole à Hugues quand il le vit revenir. Pendant ce dialogue, les autres, qui s'étaient couchés par terre en attendant autour de la voiture, se levèrent et se rangèrent près de lui. « Eh bien, » dit Simon à voix basse, « tout va-t-il bien ?»«
Pas mal, » répliqua Hugues sur le même ton. « Les voilà qui s'en vont. Ils étaient déjà en train de se disperser quand je les ai quittés pour venir. » « Et la route est-elle sûre ?» « Oh, pour les camarades, je vous en réponds, ils ne rencontreront pas beaucoup de gens disposés à venir leur chanter pouille après la besogne qu'on sait qu'ils viennent de faire ce soir. Quelqu'un a-t-il quelque chose à me donner à boire ici ?»
Chacun d'eux avait fait sa provision dans les caves et on lui offrit aussitôt une demi-douzaine de flacons et de bouteilles. Il choisit la plus grande, la mit à sa bouche et fit dégringoler le vin gargouillant dans sa gorge. Quand il l'eut vidé, il la jeta par terre et tendit la main pour en prendre une autre, qu'il vida d'un trait comme la première. On lui en passa une troisième, qu'il ne vida qu'à moitié, réservant le reste pour le coup de l'étrier.
« Ah ça, demanda-t-il, vous autres, n'avez-vous pas quelque chose à me donner à manger ? J'ai une faim de loup. Qui est-ce qui a rendu visite au garde-manger ? Allons ! Moi, camarade ! Dit Dennis, ôtant son chapeau pour chercher quelque chose, « si ça peut vous aller, j'ai là-dedans un bout de pâté de venaison. »« Bon, » cria Hugues en s'asseyant sur le chemin, « à boule et dépêchons, qu'on m'éclaire et qu'on m'entoure, je veux faire mon gala en grande cérémonie, mes gars. »
Ils n'avaient pas besoin d'être excités davantage à partager ces dispositions tapageuses. Ils avaient tous bu plus que de raison, et il n'y en avait pas un qui eut la tête plus saine que lui dans tous ceux qui vinrent se grouper autour de lui. Il y en avait deux qui lui tenaient une torche de chaque côté pour illuminer son grand couvert. Messieurs Dennis, qui pendant ce temps-là était parvenu à atteindre dans le fond de son chapeau un gros morceau de pâté si serré dans la forme que ce n'était pas une petite affaire de l'en extraire, le servit devant Hugues. Celui-ci emprunta à un honorable membre de la société un eustache ébréché et se mit vigoureusement à l'ouvrage. « Dites donc, frère, lui cria Dennis après quelques moments,
Si vous m'en croyez, vous ferez bien d'avaler tous les jours un petit incendie comme cela, une heure avant votre dîner, pour vous ouvrir l'appétit. C'est étonnant comme ça vous réussit. »
Hugues le regarda ainsi que les figures noircies dont il était entouré, et arrêtant un moment l'exercice de ses mâchoires pour faire voltiger son couteau au-dessus de sa tête, il répondit par un grand éclat de rire.
« Tenez-vous tranquille, hein, si vous voulez bien, » dit Simon Tapertite. « Ah, voilà-t-il pas, noble officier, qu'il ne sera plus permis de se régaler à présent ?» répliqua Hugues en écartant avec son couteau les gens qui l'empêchaient de voir le capitaine. « Il ne sera donc plus permis de se régaler un brin après avoir travaillé comme j'ai fait. Bon, voilà un capitaine mal commode, diable de capitaine. Ce n'est pas un capitaine, c'est un tyran.
« Je voudrais bien qu'il eût là un camarade qui tint constamment une bouteille à la bouche du lieutenant pour l'empêcher de crier, » dit Simon. « Du moins, nous n'aurions pas à craindre de voir bientôt les militaires sur notre dos. »«
Eh bien après, quand nous les aurions sur notre dos, » répondit Hugues, « qu'est-ce que ça nous fait? Croyez-vous qu'on en ait peur? Qu'ils viennent, je ne leur dis que ça, qu'ils y viennent, le plus tôt sera le mieux. » « Mettez-moi seulement Barnabé à côté de moi, et à nous deux, nous vous les arrangerons, les militaires, sans vous donner la peine de vous en occuper. À la santé de Barnabé !»
Cependant, comme la majorité des camarades, là présents, en avaient assez pour cette nuit, et ne demandaient pas d'autre affaire dans l'état de fatigue et d'épuisement où ils étaient déjà, ils se rangèrent du parti de M. Tapertite, et pressèrent l'autre de se dépêcher de souper, disant qu'on n'avait déjà que trop différé le départ. Hugues, de son côté, au milieu même de son ivresse frénétique, ne pouvait s'empêcher de reconnaître qu'il courait de gros risques à rester là sur le théâtre des violences récentes. Il finit donc son repas, sans autre réplique, se leva, s'approcha vers M. Tapertite et, lui donnant une tape sur le dos, « Là, maintenant, cria-t-il, on est prêt. Il y a de jolis oiseaux dans cette cage, hein? Des petits oiseaux bien délicats, de tendres et amoureuses colombes. C'est moi qui les ai mises en cage. C'est moi. Voyons que j'y regarde encore. » En disant cela, il jeta de côté le petit homme, monta sur le marchepied qui était à moitié baissé, leva de force le store et mit l'œil à la fenêtre de la chaise comme l'ogre qui regarde dans son garde-manger. C'est donc vous qui m'avez égratigné, pincé, battu, ma jolie bourgeoise, se mit-il à crier en saisissant une petite main qui cherchait en vain à se dégager de ses griffes.
Voyez-vous ça, avec des yeux si pétillants, des lèvres si vermeilles, une taille si appétissante. Eh bien, je ne vous en aime que mieux, madame. Vrai, ma parole, je veux bien que vous me poignardiez, si ça vous fait plaisir. « Pourvu que ce soit vous qui me guérissiez après. Ah, que j'aime à vous voir cette mine fière et dédaigneuse. Vous n'avez jamais été si jolie. Et pourtant, qui est-ce qui peut se vanter d'avoir jamais été aussi jolie que vous, ma belle petite ?»«
Allons, » dit M. Tapertite, qui avait entendu ses compliments avec une impatience manifeste. « En voilà assez, partons !» La petite main du fond de la voiture vint en aide à ce commandement en repoussant de toutes ses forces la grosse vilaine tête de Hugues et en relevant le store au milieu du rire bruyant du lieutenant éconduit qui jurait ses grands dieux qu'il lui fallait encore un petit coup d'œil dans la voiture parce que le dernier l'avait mis en appétit. Cependant, en voyant l'impatience longtemps contenue de la bande éclater enfin en murmures ouverts, il renonça à son dessein et s'assit sur l'avant-train, se contentant de taper de temps en temps au carreau de devant et d'essayer d'y jeter furtivement un regard. M. Tapertite, monté sur le marchepied et suspendu comme un beau page à la portière, donnait de là ses ordres au postillon. Dans l'attitude du commandant et d'une voix militaire, les autres venaient par derrière ou voltigeaient sur les flancs comme ils pouvaient. Il y en avait qui, à l'exemple de Hugues, essayaient d'apercevoir à la dérobée le visage dont il avait tant vanté la beauté, mais ils voyaient bientôt leur indiscrétion réprimée par un coup de gourdin de M. Tapertite. C'est ainsi qu'ils poursuivirent leur voyage par des routes détournées et des circuits nombreux, gardant en résumé un ordre passable et un silence assez discret, excepté quand ils faisaient une halte pour reprendre haleine, ou qu'ils se disputaient sur le meilleur chemin à prendre pour gagner Londres. Pendant ce temps-là, que faisait Dolly?
La belle, la charmante, la séduisante petite Dolly, les cheveux en désordre, sa robe déchirée, ses cils noirs tout humectés de larmes, son sein palpitant, le visage tantôt pâle de crainte, tantôt cramoisi de colère et d'indignation, mais après tout, dans cet état d'excitation, mille fois plus jolie que jamais, elle faisait tout ce qu'elle pouvait, mais vainement, pour remettre Mademoiselle Herdel et lui donner un peu de cette consolation dont elle aurait eu tant de besoin elle-même. Les soldats allaient venir, bien sûr. Elles allaient retrouver leur liberté. Il était impossible qu'on les conduisît à travers les rues de Londres sans que, en dépit des menaces de leurs ravisseurs, elles appelassent par leurs cris les passants à leur secours. Si elles choisissaient pour cela le moment où elles seraient dans les endroits les plus fréquentés, comment vouliez-vous qu'on ne vînt point les délivrer ? Voilà ce que se disait la pauvre Dolly, ce qu'elle essayait même de se persuader. Mais tous ces beaux raisonnements finissaient toujours par un déluge de larmes. Elle pleurait, elle se lamentait, elle se tordait les mains en se demandant ce qu'on faisait, ce qu'on pensait, ce qu'on souffrait là-bas à la clé d'or. Et elle sanglotait à fendre le cœur. Miss Herdel, dont les sentiments étaient toujours d'une nature moins turbulente que ceux de Dolly, mais plus profonds, éprouvait de cruelles alarmes. Elle était à peine remise d'un évanouissement qui lui avait encore laissé la figure toute pâle. Sa main, dans celle de sa compagne, était froide comme la glace. Néanmoins, elle lui rappelait qu'après Dieu, tout dépendait de leur prudence, que si elles se tenaient tranquilles pour endormir la vigilance des misérables qui les tenaient entre leurs mains, elles auraient bien plus de chances de pouvoir obtenir du secours quand elles seraient arrivées en ville, qu'à moins de supposer que la société tout entière fût bouleversée, on devait déjà s'être mis à leur recherche avec ardeur et qu'elle était bien sûre que son oncle ne se donnerait pas de repos qu'il ne fût parvenu à les découvrir et à les délivrer. Mais, en prononçant ces dernières paroles d'espérance, à l'idée malheureusement trop vraisemblable, après tout ce qu'elle venait de voir et de souffrir elle-même, qu'il avait pu succomber dans un massacre général des catholiques, elle redevint muette de frayeur et, abîmée dans le souvenir des horreurs dont elle venait d'être témoin, dans la crainte de celle qu'elle pouvait avoir à subir encore, elle se sentait incapable de rien penser ni de rien dire. Elle n'osait même laisser un libre cours à sa douleur. Elle était roide, froide et blanche comme un marbre. Ah, que de fois pendant ce long voyage, Dolly songea à son ancien amoureux, au pauvre Joe, si bon pour elle et si peu digne de ses dédains. Que de fois elle se rappela le soir où elle s'était précipitée dans ses bras pour échapper à l'homme qui en ce moment même plongeait son regard insolent dans les ténèbres où elle était assise dans son affliction, lançant d'odieuses œillades d'une admiration dégoûtante. Et quand elle pensait à Joe, qu'elle se représentait ce brave garçon tout prêt, s'il était là, à venir hardiment se jeter au milieu de ces brigands sans calculer leur nombre, son petit poing se fermait de colère, ses petits pieds trépignaient d'impatience, et l'orgueil qu'elle avait un moment ressenti d'avoir conquis un si grand cœur s'éteignait dans un ruisseau de larmes, et elle poussait des soupirs plus amers que jamais. Cependant, la nuit avançait, et on leur faisait prendre des chemins qui leur étaient tout à fait inconnus, dont la vue redoublait leur inquiétude, car elles cherchaient vainement à reconnaître sur la route les objets qui pouvaient y avoir frappé quelquefois leur regard en passant. Et cette inquiétude n'était que trop fondée. Comment de belles filles comme elle pouvaient-elles se voir emportées, Dieu sait où, par une bande de brigands qui les poursuivaient de leurs yeux effrontés, sans craindre tout ce qu'il y avait de pis. Enfin, quand elles entrèrent dans Londres, par un faubourg qu'elles ne connaissaient pas le moins du monde, il était plus de minuit et les rues étaient sombres et vides. Encore si ce n'eût été que cela, mais la chaise s'étant arrêtée dans un endroit isolé, Hugues vint tout à coup ouvrir la portière, sauta dans la voiture et s'assit entre elles deux. Elles eurent beau crier au secours, il passa un bras autour du col de chacune d'elles, en jurant par tous les diables de les étouffer de ses baisers si elles n'étaient pas silencieuses comme la tombe. « Je suis venu ici pour vous faire tenir tranquille, » dit-il, « et c'est comme ça que je m'y prendrai. Ainsi ne vous tenez pas tranquille, mes belles demoiselles, si cela vous fait plaisir, criez tant que vous voudrez, j'en serai bien aise, et je ne puis qu'y gagner. » Elles avancèrent alors au grand trot, et probablement avec un cortège moins nombreux que tout à l'heure, quoique l'obscurité de la nuit, maintenant qu'ils avaient éteint leurs torches, ne leur permit pas de s'en assurer par leurs yeux. Elles se reculaient pour ne point le toucher, chacune dans son coin, mais Dolly avait beau se reculer, elle n'en sentait pas moins sa taille enlacée dans le bras hideux qui la serrait. Elle ne criait plus, elle ne parlait plus, la terreur et le dégoût lui en ôtaient la force. Seulement, elle lui repoussait le bras avec une telle énergie qu'elle espérait mourir dans ses efforts suprêmes pour se dégager de ses étreintes et se glissait au fond de la voiture en détournant la tête et continuant à se débattre avec une vigueur qui l'étonnait elle-même autant que son persécuteur. La voiture s'arrêta de nouveau. « Emportez celle-là !» dit Hugues à l'homme qui vint ouvrir la portière en prenant la main de Miss Herdel et la sentant retomber inanimée. « Elle est pâmée !»« Tant mieux !» grogna Dennis, « car c'était cet aimable gentleman. Elle en sera plus tranquille. J'aime ça quand elle se pâme, à moins qu'elle ne soit calme et douce comme des colombes. Pouvez-vous la prendre à vous tout seul ?» demanda Hugues. « Je ne peux pas le savoir avant d'essayer, mais je dois pouvoir en venir à bout. J'en ai déjà enlevé bien d'autres dans ma vie, » dit le bourreau. « Allons, hop ! Elle n'est pas légère, camarade. Ces jolies filles sont toutes comme ça. Allons, encore un petit coup de main, là, je la tiens !» Pendant ce temps-là, il avait pris à bras la jeune demoiselle et s'en allait, chancelant sous son fardeau. « À votre tour, ma jolie poulette, » dit Hugues, attirant à lui Dolly. « Vous vous rappelez ce que je vous ai dit ? Pour chaque cri, un baiser. À présent, criez bien fort si vous m'aimez, ma mignonne. Un petit cri seulement, mademoiselle, ma belle demoiselle, un petit cri seulement pour l'amour de moi. » Repoussant sa face de toutes ses forces et se renversant la tête en arrière, Dolly se laissa transporter hors de la chaise à la suite de Miss Herdel dans une méchante cabane où son ravisseur, qui la serrait contre sa poitrine, la déposa doucement par terre. Pauvre Dolly! Elle avait beau faire, elle n'en était que plus jolie et plus attrayante. Quand ses yeux pétillaient de colère et qu'elle entr'ouvrait ses lèvres de pourpre pour laisser passer le souffle rapide de sa fureur, comment vouliez-vous qu'on résistât à cela ? Quand elle pleurait et sanglotait à se fendre le cœur et qu'elle se lamentait de ses peines de la plus douce voix qui eût jamais charmé une oreille, comment vouliez-vous qu'on restât insensible à cette charmante mauvaise humeur qu'elle montrait de temps en temps d'un air revêche dans la franche et sincère expansion de sa douceur. Lorsque, s'oubliant elle-même et ses propres peines, elle s'agenouillait devant son amie pour se pencher sur elle, pour approcher ses joues de la sienne, pour lui passer ses bras autour du col, quels sont donc les yeux mortels qui auraient pu se détacher de cette taille délicate et souple, de cette chevelure abondante, de ce négligé de toilette, de cet abandon complet et naturel qui faisait mieux valoir encore ses charmes et sa beauté ? Qui donc aurait pu la regarder prodiguant à sa maîtresse ses tendresses et ses caresses sans souhaiter d'être à la place d'Emma Herdel ou au moins à la place de l'une ou l'autre, de celle qui tenait son amie dans ses bras ou de celle qui était dans les bras de son amie? Ce n'était toujours pas Hugues, ce n'était toujours pas Dennis. «
Tenez, mes jeunes demoiselles, » dit M. Dennis, « je vais vous dire. » Je ne suis pas un homme à beaucoup songer aux dames pour moi-même, et je ne suis pas ici pour mon compte. Je n'y suis que pour donner un coup de main à des amis, mais s'il faut que j'en voie beaucoup comme ça, je sens que je vais changer de rôle, et que je ne jouerai pas longtemps un personnage secondaire, je vous le dis franchement.
« Pourquoi nous avez-vous amené ici ?» dit Emma. « Est-ce pour nous tuer ?»«
Vous tuer ?» cria Dennis en s'asseyant sur un tabouret et la regardant de l'air le plus aimable. « Mais, mon chéri, qui donc voudrait couper le col à de jolis petits poulets comme vous ? Demandez-moi plutôt si on vous a amené ici pour y trouver des maris à la bonne heure. »
Et ici, il échangea un rire affreux avec Hugues, qui faisait exprès de détourner modestement ses yeux du visage de Dolly.
« que non, mes petits amours, qu'on ne vous tuera pas. Il n'est pas question de ça, c'est tout le contraire. »«
Vous qui êtes plus âgé que votre camarade, monsieur, » dit Emma toute tremblante, « est-ce que vous n'aurez pas pitié de nous ? Vous voyez pourtant que nous ne sommes que des femmes. »
« Je vois bien, ma chère, » répliqua-t-il. « Il faudrait donc que je fusse aveugle de ne pas le voir, avec de pareils échantillons de votre sexe sous les yeux. Certainement, je le vois bien, et je ne suis pas seul à le voir, mademoiselle. »
Il secoua la tête d'un air de mauvais sujet et fit des yeux en coulisses à Hugues comme s'il avait dit la plus belle chose du monde et qu'il s'applaudit de se voir si bien en verve.
« Non, non, on ne vous tuera pas, le moins du monde. Eh bien, pourtant, » continua-t-il en retroussant son chapeau pour se gratter plus commodément la tête et en regardant gravement son compagnon, n'est-il pas bien remarquable à l'honneur de l'égalité des sexes devant la loi qu'elle n'admet pas de distinction là-dessus dans la pénalité entre un homme et une femme? J'ai souvent entendu le juge dire à un voleur de grand chemin ou à quelque malfaiteur qui avait pénétré dans les maisons et qui avait garrotté des femmes pieds et poings liés pour s'assurer d'elles, « Pardon, excuse, mesdemoiselles, de cet épisode. Malheureux, vous n'aviez donc pas seulement de respect pour leur sexe. » Or, je vous dirais que ce juge-là ne savait pas son métier, mon camarade, et que si j'avais été à la place des accusés, je n'aurais pas été embarrassé pour lui répondre « Qu'est-ce que vous me chantez là, milord ? J'ai montré pour le sexe le même respect que la loi. Pouvais-je faire mieux ? Vous n'avez qu'à faire dans les journaux le relevé du nombre de femmes qui ont été exécutées dans cette ville-ci seulement depuis 10 ans, dit M. Dennis d'un ton pensif, et vous serez étonné du total, mais très étonné. C'est une belle chose que l'égalité est bien honorable pour la dignité de la loi. Malheureusement, il n'est pas sûr du tout que cela dure. Les voilà qui commencent déjà à ménager les papistes. Je m'attends du train dont on y va à voir un de ces jours réformer même cette égalité. Ma foi, oui, je m'y attends. Ce sujet de conversation sentait trop son bourreau pour intéresser un profane comme Hugues, qui ne devait pas avoir la même partialité pour la profession. Mais d'ailleurs, Dennis n'eut pas le temps de continuer ses doléances, car à l'instant même, M. Tappertit entra précipitamment et sa vue arracha un cri de joie à Dolly, qui se jeta de bonne foi dans ses bras. « Je le savais bien, j'en étais sûr, cria-t-elle, mon cher père est à la porte, merci, oh merci grand Dieu !» Qu'il vous bénisse, Simon, que le ciel vous bénisse d'être venu ici. » Simon Tappertit, qui s'était d'abord imaginé dans son fort intérieur que la fille du serrurier, ne pouvant plus réprimer sa passion pour lui, allait y donner un libre cours et déclarer qu'elle était à lui pour toujours, parut déconcerté en entendant cette méprise, d'autant plus que Hugues et Dennis l'accueillirent par un grand éclat de rire qui la fit reculer et porter sur son prétendu libérateur un regard fixe et inquiet. « Miss Herdel, dit Simon après un silence plein d'embarras, j'espère que vous êtes aussi bien ici que le permettent les circonstances. Dolly Varden, ma chérie, mon tendre et délicieux amour, j'espère que vous n'êtes pas mal non plus. » Pauvre petite Dolly, elle vit tout de suite ce qu'il en était, se cacha la face dans ses mains et se mit à pousser encore des sanglots plus amers que jamais. « Vous voyez en moi, Miss Varden, dit Simon la main sur le cœur, vous voyez en moi, non pas un apprenti, un ouvrier, un esclave, la victime du joug tyrannique de votre père, mais le chef d'un grand peuple, le capitaine d'une noble troupe dont ces messieurs sont, comme qui dirait, les caporaux et les sergents. Vous voyez en moi, non pas un individu comme tout le monde, mais un homme public. » Non pas un rapiéceur de serrure, mais un médecin des plaies vives de sa malheureuse patrie. Dolly Varden, charmante Dolly Varden, combien y a-t-il d'années que j'attends cette rencontre d'aujourd'hui ? Combien y a-t-il d'années que j'aspire à vous relever et vous ennoblir par mon choix ? Mais me voici payé de mes peines. Voyez en moi, désormais, votre mari. Oui, belle Dolly, charmante enchanteresse, Simon Tappertit est à vous pour toujours. En disant ces mots, il s'avança vers elle, Dolly recula jusqu'au pied de la muraille, et là, ne pouvant aller plus loin, elle tomba par terre. Persuadée que ce n'était qu'une frime pudique, Simon essaya de la relever, mais alors Dolly, poussée au désespoir, lui saisit la crinière à deux mains et s'écriant tout en larmes que ce n'était qu'un misérable petit polisson et qu'il n'avait jamais été que ça, le secoua, le tira, le battit si bien que c'était plaisir de la voir et d'entendre le malheureux appeler au secours. Jamais elle n'avait paru si belle à Hugues que dans ce moment. « Il faut qu'elle ait les nerfs bien agacés ce soir, » dit Simon en rajustant ses plumes toutes fripées. « Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Il faut la laisser seule jusqu'à demain matin. Cela va la remettre un peu. Emportez-la dans la maison voisine. » À l'instant, Hugues la prit dans ses bras, mais soit que M. Tappertit se sentît réellement attendrir le cœur à la vue de sa douleur, soit qu'il ne trouva pas bien séant qu'on vit sa future se débattre dans les bras d'un autre homme,
Il ordonna à Hugues, réflexion faite, de la déposer là et la regarda de mauvais œil pendant qu'elle allait bien vite se réfugier auprès de Miss Herdel, s'attachant après son amie et cachant dans les plis de sa robe la rougeur de son front. « Elles vont rester ensemble ici jusqu'à demain matin, » dit Simon, qui avait eu le temps de reprendre toute sa dignité. « Jusqu'à demain matin. Partez !»«
Bah !» cria Hugues. « Comment, capitaine? Partez ! Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui vous fait rire ?» demanda Simon d'un air sévère. « Rien, capitaine, rien !» répondit Hugues, et en même temps, il tapait de sa main l'épaule du petit homme et recommençait à rire 10 fois plus fort, sans en expliquer la raison.
Monsieur Tapertit le toisa des pieds à la tête avec une expression de dédain suprême, ce qui fit rire l'autre de plus belle, et se tournant vers les belles captives, « Mesdames, leur dit-il, vous n'oublierez pas que cette maison est surveillée de tous côtés et que le moindre bruit qu'on y entendrait serait suivi à l'instant des plus funestes conséquences. Demain, nous vous ferons connaître à l'une et à l'autre nos intentions. » En attendant, tâchez de ne pas vous montrer à la fenêtre et ne pas appeler à votre aide les passants, car au premier mot, le public verra que vous venez d'une maison catholique et tous les efforts de nos gens pour défendre votre vie seraient impuissants à vous sauver. Après cet avertissement, qui ne manquait pas de vraisemblance, il s'en retourna vers la porte, suivi de Hugues et de Dennis. Ils s'arrêtèrent un moment avant de sortir, à les contempler enlacés dans les bras l'une de l'autre. Puis ils quittèrent la cabane, verrouillèrent la porte en dehors et y mirent bonne garde ainsi qu'autour de la maison.
« Savez-vous, grommela Dennis en s'en allant avec ses compagnons, que nous avons là de jolis brins de filles. Celle de maître Gashford vaut bien l'autre. Qu'en dites-vous ? »
« Chut ! » dit Hugues avec précipitation. « N'appelez pas les gens par leur nom. C'est une mauvaise habitude. »
« Eh bien, je ne voudrais pas être à sa place, au monsieur dont vous ne voulez pas qu'on dise le nom, quand il viendra lui faire sa déclaration. Voilà tout, » dit Dennis. « C'est une de ces brunes à l'œil noir, orgueilleuse et fière, auxquelles je ne me fierais pas si je leur voyais un couteau sous la main. J'en ai déjà vu plus d'une. Mais il y en a une surtout que je me rappelle qui a été exécutée il y a bien des années. Il y avait aussi un gentleman dans l'affaire. » Elle me dit d'une lèvre tremblante, mais d'un cœur aussi ferme que celui de Judith devant Holoferne, « Dennis, je suis près de ma fin, mais je voudrais avoir au bout de mes doigts une lame et le voir, lui, devant moi, pour le frapper raide mort. » Ah, mais c'est qu'elle l'aurait fait, comme elle le disait. « Qui donc raide mort ?» demanda Hugues. « Comment voulez-vous que je vous le dise, camarade ?» répondit Dennis. « Elle ne l'a pas nommé, ma voix. »
Hugues parut un moment tenté de demander encore quelques renseignements sur ce souvenir incohérent, mais Simon Tapertit, qui pendant ce temps-là était plongé dans ses méditations profondes, donna à ses pensées une nouvelle direction. «
Hugues, lui dit-il, vous avez bien travaillé aujourd'hui, vous serez récompensé, et vous aussi, Dennis. Vous n'avez pas quelques jeunes beautés à faire enlever pour votre compte ?»
« Non, répondit le gentleman, passant sa main sur sa barbe grise, longue au moins de 2 pouces, je ne vois pas que j'en ai une qui me tienne au cœur. »«
Très bien, dit Simon, alors nous trouverons quelque autre moyen de vous indemniser. Quant à vous, mon brave garçon, en se tournant vers Hugues, vous aurez Miggs, vous savez, celle que je vous ai promise, et cela avant qu'il soit 3 jours. Comptez là-dessus. Je vous en donne ma parole, c'est comme si vous la teniez. »
Hugues le remercia de tout son cœur et de tout son cœur aussi se mit à rire. Si bien et si fort qu'il s'en tenait les côtes et qu'il était obligé de s'appuyer sur l'épaule de son petit capitaine pour ne pas se rouler par terre, car il n'aurait pas pu s'en empêcher sans cela.
Chapitre 60. Les 3 honorables compagnons se dirigèrent du côté de la botte avec l'intention de passer la nuit dans ce lieu de rendez-vous et de chercher, à l'abri de leur antique repère, le repos dont ils avaient tant besoin. Car maintenant que l'œuvre de destruction qu'ils avaient méditée se trouvait accomplie et qu'ils avaient mis pour la nuit leur prisonnière en lieu de sûreté, ils commençaient à se sentir épuisés et à éprouver les effets énervants du transport de folie qui les avait entraînés à de si déplorables résultats. malgré la fatigue et la lassitude à laquelle il succombait alors comme ses deux camarades, et on peut dire comme tous ceux qui avaient pris une part active à l'incendie de la Garenne, Hugues retrouvait encore toute sa verve de tapageuse gaieté chaque fois qu'il regardait Simon, et à la grande colère du petit capitaine, il la manifestait par de tels éclats de rire qu'ils s'exposaient à attirer sur eux l'attention de la police et à se mettre sur les bras quelque affaire dans laquelle leur état de faiblesse et d'épuisement ne leur aurait pas fait jouer un rôle brillant. Monsieur Dennis lui-même, qui n'était pas très sensible à l'endroit de la dignité personnelle et de la gravité, et qui avait de plus un extrême plaisir à voir les excès d'humeur bouffonne de son jeune ami, crut devoir lui faire des remontrances sur l'imprudence d'une telle conduite qu'il considérait comme une espèce de suicide. Or, le suicide étant une anticipation volontaire sur l'action de la loi par la main du bourreau, il ne trouvait rien de plus sot ni de plus ridicule. En dépit de ces remontrances, Hugues, sans rabattre un iota de son humeur folâtre et bruyante, s'en allait, se balançant entre deux, en leur tenant le bras, jusqu'au moment où ils se trouvèrent en vue de la botte, à quelques cent pas de cette honnête taverne. Heureusement pour eux, qu'il avait cessé de rire avec sa grosse voix en approchant au but de leur course, ils continuaient donc leur marche sans bruit, lorsqu'ils virent sortir avec précaution de la cachette un ami qu'on avait chargé de faire le guet toute la nuit dans les fossés du voisinage, qu'il y avait du danger à venir se faire prendre dans cette souricière. « Arrêtez !» leur cria-t-il. « Arrêtez ? Et pourquoi ?» dit Hugues. « Parce que la maison est pleine de constables et de soldats depuis qu'elle a été envahie hier au soir. Les habitants sont en fuite ou en prison, je ne sais pas lequel des deux. J'ai déjà empêché bien des gens de venir s'y faire prendre et je crois qu'ils sont allés dans les marchés et les places pour y passer la nuit. J'ai vu de loin la lueur des incendies, mais ils sont éteints maintenant. D'après tout ce que j'ai entendu dire aux gens qui passaient et repassaient, ils ne sont pas tranquilles et se montrent inquiets. Quant à Barnabé, dont vous me demandez des nouvelles, je n'en ai pas entendu parler, je ne le connais pas même de nom, mais par exemple, il paraît qu'on a pris ici un homme qu'on a emmené à Newgate. Est-ce vrai, est-ce faux, je ne saurais l'affirmer. » Le trio d'amis, à cette nouvelle, délibéra sur ce qu'il devait faire. Hugues, supposant que Barnabé pouvait bien être entre les mains des soldats et détenu en ce moment sous leur garde à l'auberge de la botte, voulait qu'on s'avançât furtivement et qu'on mît le feu à la maison. Mais ses compagnons, qui n'avaient pas envie de se lancer dans ces entreprises téméraires tant qu'ils n'avaient pas un peuple d'insurgés derrière eux, lui représentèrent que s'il était vrai qu'ils eussent attrapé Barnabé, ils n'avaient pas manqué de le faire passer dans une prison plus sûre, qu'il n'aurait pas été assez simple pour le garder toute la nuit dans un lieu si faible et si isolé. Cédant à ses raisons et docile à leurs conseils, Hugues consentit à revenir sur ses pas et à prendre le chemin de Fleet Market, où il retrouverait, selon toute apparence, quelques-uns de leurs plus intrépides camarades qui s'étaient dirigés de ce côté-là en recevant le même avis. La nécessité d'agir leur rendit une force nouvelle et rafraîchit leur ardeur. Ils pressèrent donc le pas, sans songer à la fatigue qui les accablait 5 minutes auparavant, et furent bientôt arrivés à destination. Fleet Market, à cette époque, était une longue file irrégulière de hangars et d'appentis en bois qui occupait le centre de ce qu'on appelle aujourd'hui Farringdon Street. Ces constructions grossières, adossées malproprement l'une à l'autre, empiétaient jusque sur le milieu de la route, au risque d'encombrer la chaussée et de gêner les passants qui se dépêchaient de se tirer de là comme ils pouvaient, à travers les charrettes, les paniers, les brouettes, les diables, les tonneaux, les bancs et les bornes, coudoyés par les portefaix, les marchands ambulants, les charretiers, par la foule bigarrée d'acheteurs, de vendeurs, de voleurs, de coureurs, de flâneurs. L'air était parfumé de la puanteur des herbes pourries et des fruits moisis, des rebuts de la boucherie, des boyaux et des tripailles jetés sur le chemin. On croyait alors qu'il fallait acheter par ces incommodités publiques l'avantage d'avoir dans les villes certains commerces utiles, et Fleet Market exagérait encore la chose. C'est en cet endroit, peut-être parce que ces hangars et ces paniers pouvaient remplacer passablement un lit pour ceux qui n'en avaient pas, peut-être aussi parce qu'il offrait les moyens de faire, en cas de besoin, des barricades improvisées, que les émeutiers étaient venus en nombre, non seulement cette nuit-là, mais depuis déjà 2 ou 3 nuits. Il faisait alors grand jour, mais comme la matinée était fraîche, il y avait un groupe de ces vagabonds autour de l'âtre du cabaret, buvant des grogs bouillants d'absinthe, fumant leurs pipes et concertant de nouvelles expéditions pour le lendemain. Comme Hugues et ses deux amis étaient bien connus de la plupart de ces buveurs, Ils furent reçus avec des marques d'approbation distinguées et on leur laissa la place d'honneur pour s'asseoir. La chambre fut fermée et barricadée pour éloigner les fâcheux et on commença à se communiquer les nouvelles qu'on pouvait avoir.
« Il paraît, dit Hugues, que les soldats ont pris possession de la botte. Y a-t-il quelqu'un ici qui puisse nous dire ce qui en est ?»«
Certainement, s'écrièrent ensemble plusieurs voix, mais comme la plupart de ceux qui étaient là avaient pris part à l'assaut de la Garenne et que le reste avait fait partie de quelque autre expédition nocturne, il se trouva que personne n'en savait là-dessus plus que Hugues lui-même. Ils avaient tous été avertis l'un par l'autre ou par l'ami caché sur la route, mais ils ne savaient rien personnellement.
« C'est que, dit Hugues, nous avons laissé là hier, en faction, un homme qui n'y est plus. Vous savez bien qui je veux dire. Barnabé, celui qui a renversé le cavalier à Westminster. Y a-t-il quelqu'un qui l'ait revu ou qui ait entendu parler de lui ?»
Ils secouaient la tête et murmuraient tous que non, en se regardant à la ronde pour se questionner les uns les autres, quand on entendit du bruit à la porte, c'était un homme qui demandait à parler à Hugues. Il fallait absolument qu'il vît Hugues.
« Ce n'est qu'un homme seul, cria Hugues à ceux qui gardaient la porte. Laissez-le entrer. »«
Oui, oui, répétèrent les autres. Qu'il entre, qu'il entre. »
En conséquence, on débarre la porte, elle s'ouvre, et l'on voit paraître un manchot, la tête et la figure enveloppées d'un linge sanglant, comme un homme qui a reçu de sérieuses blessures. Ses habits étaient déchirés et sa main unique pressait un bon gourdin. Il se précipite au milieu d'eux, tout haletant, demandant après Hugues.
« Présent, lui répond celui-ci à qui il s'était adressé, c'est moi qui suis Hugues, qu'est-ce que vous me voulez ?»«
J'ai une commission pour vous, dit l'homme. Vous connaissez un certain Barnabé.
Qu'est-ce qu'il est devenu ? Est-ce de sa part que vous venez ?
Oui, il est arrêté. Il est dans un des plus forts cachots de Newgate. Il s'est défendu de son mieux, mais il a été accablé par le nombre. Voilà ma commission faite. »
« Quand donc l'avez-vous vu ? Demanda Hugues avec empressement.
« Pendant qu'on l'emmenait en prison sous escorte nombreuse, ils ont pris une rue détournée où nous avions cru qu'il ne passerait pas. J'étais un de ceux qui ont essayé de le délivrer. Il m'a chargé de vous dire où il était. Nous n'avons pas réussi, mais c'est égal, l'affaire a été chaude. Regardez plutôt. »
Il montrait du doigt ses habits et le bandeau sanglant qui saignait sa tête. Il paraissait encore tout essoufflé de sa course en regardant la compagnie à la ronde, enfin se retournant de nouveau vers Hugues.
« Je vous connaissais bien de vue, dit-il, car j'étais des vôtres vendredi, samedi et hier, mais je ne savais pas votre nom. Je vous reconnais maintenant. Vous êtes un fameux gaillard, et lui aussi. Il s'est battu le soir comme un lion, quoique ça ne lui ait pas servi à grand-chose. Moi aussi, j'ai fait de mon mieux, surtout pour un manchot. »
Il jeta de nouveau un regard curieux autour de la chambre. Du moins, il en eut l'air, car il était difficile de distinguer ses traits sous le bandeau qui lui couvrait le visage, puis, regardant encore fixement du côté de Hugues, il empoigna son bâton comme s'il s'attendait à une attaque et qu'il se mit sur la défensive. Au reste, s'il en eut eu un moment la peur, elle ne dura pas longtemps, en présence de la tranquillité de tous les assistants. Personne ne songea plus à s'occuper du porteur de nouvelles, tous s'occupèrent des nouvelles elles-mêmes. On n'entendait de tous côtés que des jurons, des menaces, des malédictions. Les uns criaient que si on souffrait ça, ce serait bientôt leur tour à se voir tous emmenés à la geôle. Les autres que c'était bien fait, que s'ils avaient délivré d'abord les autres prisonniers, cela ne serait pas arrivé. Un homme se mit à crier de toutes ses forces « Qui est-ce qui veut me suivre à Newgate ?» Tout le monde lui répondit par une acclamation bruyante en se précipitant vers la porte. Mais Hugues et Dennis s'adossèrent contre elle pour les empêcher de sortir, attendant que la clameur confuse de leur voix se fût apaisée et permit de faire entendre des observations raisonnables. Ils leur représentèrent que de vouloir s'en aller faire ce beau coup en plein jour à présent, ce serait un trait de folie, tandis que s'ils attendaient la nuit et qu'ils combinassent auparavant un plan d'attaque, non seulement ils pourraient reprendre tous leurs camarades, mais encore délivrer les prisonniers et mettre le feu à la prison par-dessus le marché.
« Et encore pas à la prison de Newgate seule !» cria Hugues, « mais à toutes les prisons de Londres, pour qu'il n'ait plus d'endroit où mettre les prisonniers qu'il pourrait nous faire. Nous les brûlerons toutes, nous en ferons des feux de joie. Tenez, dit-il en saisissant la main du bourreau, s'il y a des hommes ici, qu'ils viennent croiser leurs mains avec les nôtres en gage d'alliance, Barnabé en liberté, et abat les prisons. Qui est-ce qui le jure avec nous ?»
Tous, jusqu'au dernier, vinrent tendre leurs mains, tous jurèrent, avec des serments effroyables d'arracher la nuit suivante leurs amis à Newgate, d'enfoncer les portes, de mettre le feu à la geôle ou de périr eux-mêmes dans les flammes.